la première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h, par où dire?
Pascal Tison.
Dis-moi, par où dire?
Par où dire?
Oui, on est en Amérique, on est dans les années 50, 55, 56 pour être précise. Et on est un tout petit peu partout aux États-Unis, c'est-à-dire que Robert Frank a sillonné les États-Unis, en partie la route 66, mais pas uniquement. Et à chaque ville, à chaque arrêt, il a fait des photographies.
Quand vous dites la route 66?
Oui, c'est la route américaine qui sillonne, qui traverse une grande partie des États-Unis. Et dont le point final, me semble-t-il, de mémoire, est à Santa Monica, me semble-t-il, en tout cas en Californie.
Vous me faites penser, America par Asparte, oui, quand vous dites ça, à un autre voyageur qui venait du Canada, lui, et qui a écrit un livre fameux intitulé « Sur la route ».
Oui.
Il s'agit de Jacques Kerouac.
Exactement. Les deux hommes étaient amis, les deux hommes se connaissaient, et ils se fréquentaient à New York. Donc oui, effectivement, le parallèle est intéressant et le parallèle est très pertinent. Sur la route et le voyage de Robert Frank, c'est une vision photographique du héros du livre de Jacques Kerouac, effectivement. Mais ça va au-delà de ça. Il ne s'approche pas des gens, il ne parle pas aux gens, il est dans ce qu'il a vu, dans ce qu'il a envie de capturer, il prend et il s'en va. Et c'est peut-être pour ça qu'il a fait de la prison, parce qu'on ne savait pas si c'était un espion ou quelque chose. Donc il était le regard méfiant de l'époque. Le fait qu'il s'est retrouvé aussi en prison, on ne savait pas ce qu'il faisait, on ne savait pas ce qu'il photographiait et pourquoi il le photographiait. Ça, c'est vraiment génial. C'est un photographe qui, en 83 images, vous raconte une Amérique, vous raconte une histoire, vous raconte un état d'âme, vous raconte une réalité. Et il ne se perd pas, droit au but, toujours. Très fort, direct. Il ne prend pas des chemins de traverse. Non, c'est un regard direct, une parole directe. Et ça, c'est une force extraordinaire. Il y a énormément de photographes aujourd'hui qui se perdent, qui vous montrent des tas de choses, mais qui perdent l'essentiel de leur travail. Ici, on est vraiment dans l'essentiel. On a un regard des États-Unis, on a un portrait. C'est le portrait des États-Unis en 1955.
On a la chance ici d'avoir, et on n'a pas inventé le fil à couper le beurre, je vous l'avoue très franchement, on a la chance d'avoir ici le 84 vintage que la MEP avait en partie acquis et en partie reçu, qui ont tous été tirés et signés par Robert Frank, qui explique également le fait que nous passons de l'ambiance des néons de Lilian Vertesen à une ambiance un peu plus feutrée pour maintenir les conditions d'exposition. Et on n'a pas inventé le fil à couper le beurre, nous avons placé les photographies dans un ordre qui plus ou moins correspond à celui du livre. Et c'est une autre lecture, car quand nous avons un livre, nous tournons une page, il y a une page blanche, il y a un vis-à-vis. Ici, il y a une lecture qui est un peu plus différente. Donc je vous laisse découvrir cette exposition. Je vous retrouve dans 5 minutes pour passer à Anneke de Lander sur notre parcours.
Au musée de la photographie à Charleroi jusqu'au 20 janvier. Robert Frank, Les Américains, Pierre Libart, Boîte Noire, Libre Maintenant, Manfred Jade, Face to Face, Lisa Debouc et Marlène Collins, Mimimum. Avec Xavier Cannon, America par Asmart, Georges Vercheval et Pierre Libart. Le Monde Invisible est une émission de Thierry Genicot. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques. Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliski.
Mon œuvre.
Quel est votre cinquième?
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Aleschinski.
Authentique, me tento, ton stélé.
Le Monde Invisible.
Cet au-delà consiste là où Kerouac montre une Amérique qui est complètement encerclé par une période communiste dure où on se sent observé, mais également par une consommation à outrance, et surtout sur le rêve américain. Robert Frank va au-delà en le montrant en images, mais ces images elles-mêmes sont une espèce de manifeste de cette Amérique désenchantée. Et ce qui est intéressant avec Robert Frank, c'est qu'il y a un avant et un après. Tout comme Walker Evans, il y avait un avant, un après. Pour Robert Frank, en tout cas, c'est pour moi, visuellement, esthétiquement, c'est la même chose. Mais tout ça n'est possible que parce que, justement, dans ces années 50, il y a ces peintres, je pense à Pollock, je pense à de Kooning, aux écrivains comme Kerouac et toute la Beat Generation, qui sont justement dans cette recherche d'une autre Amérique. Et je pense aussi à des photographes comme Diane Arbus, élève elle-même de Lisette Modèle, qui, je pense aussi, a énormément influencé les photographies de Robert Frank. Liam Klein, même époque que Robert Frank, même regard. Ouija, même époque que Robert Frank, même constat. Donc on est vraiment dans un climat où on vous vend l'Amérique parfaite, mais à côté de ça, il y a le quotidien, lui, est imparfait. Et Robert Frank, tout comme ses autres photographes, ses auteurs ou ses peintres, nous le montrent. Et nous le montrent vraiment de manière presque brutale, comme un coup de massue. Je dirais, en 1955, c'était un coup de massue. En 2018, c'était un coup de poing.
Georges Vercheval, une photographie que je crois savoir qui vous touche beaucoup.
Oui, les Américains de Robert Frank, c'est vraiment une manière de photographier qui me touche particulièrement. Vision très directe et en même temps intériorisée, parce qu'il n'est pas américain, mais il voit l'Amérique, il aime l'Amérique, mais il la critique en même temps, et je trouve ça extraordinaire.
America Parasmart.
Toute personne qui n'a pas les mêmes idées républicaines est considérée comme communiste, donc comme anti-américain. Il y a aussi un climat d'espionnage, on se sent tout le temps observé, c'est une ambiance finalement très violente, mais qui est quotidienne. On se sent observé, il y a des délations. On est aussi en 1955, donc on est en pleine ségrégation raciale. C'est tout un contexte qui fait que ces images sont vraiment très forte pour l'époque, mais continue aujourd'hui à être très forte. On n'est pas dans le même constat politique, mais on est plus ou moins dans la même veine avec ces montées des nationalismes. Oui, on pourrait revenir à ça, on pourrait revenir à cette ségrégation, à tout ce que nous montre au final Robert Frank, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui réussissent, mais le trois quarts rate et le trois quarts essaie de survivre. Et c'est aussi le message de Sur la route de Kerouac. À côté du rêve américain, il y a tous ces gens qui tentent de survivre au jour le jour et qui n'ont pas forcément une destinée préétablie ou une idée de ce qu'ils vont devenir. Ils sont vraiment dans le moment en train d'essayer de survivre à cette espèce de chaos de l'époque. Mais ça, c'est une analyse avec le recul.
Les Américains de Robert Frank, c'est 84 photographies qui sont contenues dans ce livre qui est paru chez Delpire en 1958 très exactement d'ailleurs, un livre qui est à l'époque paru dans une relative indifférence. C'est la seconde édition qui a surtout amené cette espèce de révélation de ce qu'avait réalisé ce photographe d'origine suisse, puisqu'il y est né en 1924, s'était installé aux États-Unis dans les années 47-48, et grâce à une bourse de la Fondation Guggenheim, a fait comme bien d'autres photographes que nous avons déjà montrés ici, je pense à Winogrand, je pense à Meyerowitz et tant d'autres, s'est lancé sur les routes pour essayer de comprendre ce très curieux pays, comme l'avait fait Walker Evans aussi en son temps. Donc on a là véritablement une démarche photographique de comprendre le pays dans lequel l'on vit, dans lequel on va vivre, puisque lui s'y est installé à ce moment-là, et de partir sur les routes. Il rejoint en cela toutes les aspirations de la Beat Generation, de Kerouac, de Ginsberg, Kerouac qui va faire la préface de ce premier livre, où au fond il faut partir non seulement sur les routes pour comprendre, mais il faut aussi se laisser livrer à ses propres sentiments, ses propres sensations. Et c'est ce qui fait sans doute peut-être qu'on peut dire qu'il y a une photographie avant Robert Frank et après Robert Frank, c'est que le travail de Robert Frank va toucher une génération par à la fois sa poésie, sa subjectivité, mais une façon de traiter le sujet qui est totalement différente. Il faut quand même se replacer aussi dans le contexte qui est celui que l'on vit à l'époque dans les États-Unis. On sort à peine du McCarthyisme, on est sous Eisenhower. C'est un pays qui s'est enrichi avec la guerre. On est dans le boom économique. Et ce pays, je dirais par le cinéma, par la publicité, crée ce qu'on appelle alors l'American Way of Life. C'est-à-dire cette espèce de sentiment de confort, de bien-être que tous les Américains devraient recevoir. Or, on sait, c'est encore l'époque où les étudiants noirs ne rentrent pas dans les universités ou rentrent au prix de grandes difficultés, où la ségrégation sévit encore dans les autobus, dans les lieux publics. Il y a une vision de l'Amérique qui est une vision de l'Amérique totalement tronquée à l'époque pour le monde entier, pour nous qui avons reçu les Américains, qui les Américains ont libéré en tout cas le territoire. Il y a quelque chose qui est totalement tronqué. C'est la raison pour laquelle quand le livre et quand le reportage d'abord va sortir, plusieurs grands magazines américains vont le refuser. Il y a une vision qui est perçue comme un anti-américanisme. On est vraiment dans cette époque où on chasse les sorcières. Et c'est un peu la raison pour laquelle ce livre va marquer autant, si pas plus, ailleurs qu'aux États-Unis, qu'à l'intérieur des États-Unis, où le livre pourtant va être republié.
À tous les grands concerts qui vont arriver, à tous ces grands groupes qui vont révolutionner le monde du rock, mais on n'y est pas encore. On pense aussi au jazz, à ce qui va arriver, donc le free jazz va arriver par la suite. Aussi, c'est un autre moyen de contestation. On pense aussi à Bob Dylan par la suite. Et donc tous ces contestataires sont issus justement de cette micro-culture aux États-Unis qui contredit le mass média, la masse, la culture de masse qui s'est installée. À Hollywood, c'est l'époque de Gene Kelly, dans le Hollywood flamboyant, où on ne voit que des blancs, où on voit très peu de personnes de couleur, on voit très peu de films politiques, en tout cas qui sont censés être politisés. C'est aussi l'époque où, par la suite, John Cassavetes va faire son premier film à New York, où il va mettre en scène justement cette espèce d'idée de masse culture, de masse média, d'États-Unis complètement à la ramasse. On est aussi dans ce premier film de John Cassavetes qui va s'annoncer, mais je pense que John Cassavetes, influencé par les images de Robert Frank, qui sont très très fortes, comme celle de William Klein. William Klein, c'est la même époque, c'est 54, 55, 56, ces photographies de New York où on voit cette violence alors que la violence n'est pas dans l'image, mais plutôt dans la manière d'amener l'image. Ici, c'est la même chose. Ici, ce qui est fort chez Robert Frank, c'est qu'il n'y a pas de narration, on n'est pas dans l'instant décisif, on est en dehors de la narration et pourtant ces images, elles en ont une et très très forte. Et ça, c'est nouveau, c'est pertinent, c'est nouveau. Ça n'avait jamais été fait avant. Cette manière de photographier, d'image idéale, d'image d'épinal, d'instant décisif, on ne le retrouve pas chez Robert Frank. On est en dehors de ça. Et ça, c'est génial.
Georges Percheval.
C'est du reportage et c'est du document en même temps. Et c'est un document historique. Bon, ces photographies n'ont pas été réalisées maintenant. Elles ont été très connues, comme l'a rappelé Xavier Cannon, dès leur sortie, diversement appréciées, bien sûr. Et puis sont restés vraiment dans la mémoire collective comme une nouvelle manière de voir un pays, de voir l'Amérique, de voir les États-Unis dans ce cas-ci. Je trouve ça particulièrement intéressant. J'aime beaucoup ces images, elles sont d'une sensibilité folle.
Analyse d'une image.
Ok, analyse d'une image. Il y en a énormément, je ne sais pas laquelle choisir. Je vais choisir celles qui sont les moins connues. On n'a pas l'habitude de s'arrêter. Je vais éliminer celle du bus parce qu'elle est très très connue. Je vais éliminer celle de la jeune femme de couleur qui tient un enfant blanc parce que c'est des très connues. Je vais éliminer celle d'Hoboken à New York, de ces deux femmes à leur fenêtre barrées par le drapeau américain.
Au musée de la photographie à Charleroi jusqu'au 20 janvier. Robert Frank, les Américains.
Dans une camionnette. Ces deux hommes, un conduit, il regarde devant lui, le deuxième à l'avant-plan est à moitié flou, mais il prend quand même une grande part de la composition. Il ne se passe absolument rien, c'est simplement un conducteur et son accompagnant. Ce que j'aime dans cette image, c'est le cadrage, en tout cas le décadrage, de mettre en avant un avant-plan flou, comme l'avait fait William Klein sur certaines photographies. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est que je retrouve dans cette photographie d'Idaho, je retrouve la manière de photographier d'Eugène Richards par la suite. Cette force, ce contraste, cette manière inattendue de mettre à l'avant-plan des choses où il ne se passe rien, mais qui en même temps raconte quelque chose, raconte. Il y a une dureté dans cette image-là. Les regards sont dirigés vers l'avant, aucune grimace, aucune moue, ils sont sérieux, et pourtant il y a un côté dramatique qui est là.
Il y a une façon de regarder les États-Unis qui est critique dans un certain sens, pas dans toutes les photographies, mais qui est surtout une façon aussi de déplacer le sujet. Il y a quelque chose qui montre des fragments comme ça, où le sujet est parfois au second plan, est parfois décentré. Et il y a, évidemment, pour les spécialistes en photographie, cette espèce de nouveau regard avec des entrevisions, des images qui sont décalées. On est à l'inverse d'une photographie étudiée, montée, mise en scène, cadrée selon les schémas classiques. C'est aussi à l'inverse d'une photographie comme celle de Walker Evans, qui était une photographie répertoire, qui était une photographie souvent très codifiée, classant des sujets, même si chez Walker Evans aussi, il y a ce qu'on appelait la street photographie, c'est-à-dire une photographie un peu spontanée.
La force des images, par exemple, de Dorothée Allenge.
America Parasmart.
On est dans le Montana, une femme... chemise de bûcheron, petite robe fleurie. C'est pas la middle class ni la haute bourgeoisie, on est vraiment dans le milieu ouvrier. Elle est certainement accompagnée d'un chauffeur qu'on ne voit pas. Et à l'arrière de la voiture, il y a une petite fille qui tente de regarder par la fenêtre en même temps que sa mère ou sa grand-mère. On ne sait pas très bien. Ce que j'aime dans cette image-là, c'est qu'elle me rappelle une autre image de Dorothée Allenge où on voyait ces migrants, ces espèces d'ouvriers qui allaient de village en village à la recherche de travail. Et dans le cadre, dans la composition, on est plus ou moins dans quelque chose de similaire, mais ici, de plus fort, de plus brut. Et je pense que la force de Robert Frank, c'est sa technique, cette manière de rendre ces images par uniquement le contraste, de les rendre violentes et dures. La dureté n'est pas dans le sujet, mais dans la manière de le montrer, tout comme William Klein. Et c'est la même chose pour Diane Arbus.
Georges Vercheval, à voir cette image, pense évidemment à la figure de l'écrivain Jacques Kerouac.
Oui,
bien
sûr.
Sur la route.
Ah oui.
Et je pense aussi à une poésie lyrique américaine qui est de contestation à l'époque. J'entends une description des États-Unis.
On est proche de la Beat Generation.
Le drame est hors cadre. On ne le sait pas, on ne le voit pas. Et ça qui est intéressant. Ce qui est génial aussi chez Robert Frank, pour moi en tout cas, c'est qu'il arrive à composer une image qui se tient toute seule, mais qui, accompagnée des autres, est renforcée. Et ça, c'est très très rare. D'habitude, on fait des images en une série. Les images se répondent les unes aux autres. Ici, elles ont été faites pour être seules. Mais accompagné des autres, le message final est encore plus renforcé. Le drame est encore plus dramatique. Et ça, on le retrouve par la suite chez des photographes comme Marie-Hélène Marcq, qui, elle, dans sa conception de l'image, fait une image pour être lue de manière unique. Et ça, c'est génial. Donc, on voit qu'il influence, d'une manière ou d'une autre, plein de générations de photographes. Et ça, c'est magique. Mais il est lui-même influencé. Bien sûr, influencée par Lisette Model, une des premières femmes photographes, mais professeure dans une école de New York, professeure de Diane Arbus, qui disait « il faut photographier avec ses tripes ». C'est ce qu'il a fait. Pourtant, il n'a pas été un de ses élèves, mais on est dans cette idée-là, dans cette mouvance-là. Je pense que des gens comme Lisette Model ou Berenice Abbott vont ouvrir la photographie américaine à ce qui va arriver par la suite dans les années 50. Elles vont poser un regard qui est complètement différent, qui est à l'opposé de ce qu'on retrouve à l'époque, c'est-à-dire la photographie humaniste en France, par exemple.
On est proche de la Beat Generation, qui ont, eux, apprécié directement le travail de Robert Frank. Et c'est vrai que Jack Kerouac, c'est une belle référence. Hein, Jack Kerouac, dont on connaît les ouvrages sur la route, etc.
Qui n'est pas américain. Non.
Et Robert Frank est sur la route. Il est sur la route, avec sa famille d'ailleurs, très souvent. Il y a des images, des sortes d'autoportraits dans sa voiture, avec les enfants qui dorment encore. C'est assez touchant de voir de quelle manière il a fait ça.
On photographie avec ses tripes et on part de ce qui nous touche, c'est-à-dire notre quotidien à nous, dans une vision intime au final. Et c'est ça, Robert Frank aussi, c'est une vision intime de l'Amérique. Alors oui, il a été catégorisé comme anti-américain parce qu'il ne glorifie pas cette Amérique culturellement bienveillante, culturellement de consommation. On n'est pas dans Pepsi-Cola ni Coca-Cola, on n'est pas dans la pub où tout le monde est heureux. Ici, c'est vraiment la réalité, mais telle que lui la vit, telle que lui la ressent. Il y a une photographie que j'aime beaucoup parce que là, on voit vraiment l'influence d'un autre photographe, Bill Brandt.
Alors moi, je suis très très heureux que ces images soient ici au musée et qu'on ait accepté de nous les prêter, parce que ça fait un peu partie de ce cycle, alors je vais mettre des guillemets, américains, que nous avons présenté. La photographie américaine a énormément influencé la photographie européenne. Il y a eu un mouvement comme ça de ressac dans ces années 40, 50 et 60. Mais ce qui est très étonnant ici, c'est qu'on a une photographie que l'on jugerait aujourd'hui américaine par son sujet, mais qui est vue aussi par le regard de quelqu'un qui est né en Europe, en Suisse, je le répète.
Il s'agit d'une route. On est au Nouveau-Mexique. Il s'agit d'une route qui se prolonge vers l'infini, prise au grand angle. On voit bien qu'il y a une petite déformation, mais ce qui est super intéressant, c'est ce contraste. Et ce contraste, il est typique de Bill Brandt. Donc c'est ça qui est génial, influencé par Bill Brandt, influencé par Walker Evans, influencé par Bérénice Abbott, influencé par Lisette Model, influencé par la Beat Generation, influencé aussi par des photographes suisses qu'il connaît, puisque c'est son pays d'origine, influencé par tout ça. Il arrive à trouver son propre regard. Et ce regard-là est unique dans les années 50. Et ça, c'est génial. Autre chose, ces photographies, bon voilà, cataloguées comme anti-américains, publiées, oui, mais pas montrées à l'époque. La force des tirages, c'est qu'ils sont beaucoup plus forts que le livre. Le livre est beau, mais les tirages, c'est extraordinaire. C'est vraiment une autre dimension. Et là, j'ai été vraiment très surprise, parce que je connaissais le livre. Mais les voir comme ça en vrai, il y a une force qui se dégage, il y a quelque chose de... C'est une exposition qui est très très belle pour ça, parce que oui, on revient à la réalité. Oui, il y a l'image imprimée, mais l'image, la relation du spectateur à l'image est extraordinaire. Et Robert Franck, vraiment, c'est une exposition qu'il faut venir voir pour ça.
Et le livre s'appelle ?
Les Américains. Publié aux éditions Delpire la première fois, et ensuite une version préfacée par Jacques Kerouac lui-même.
Tiens, peut-être le vrai mois, ou un deuxième mois, ou peut-être que j'ai envie de rajouter quelque chose à ma vie actuelle, quelque chose, une annexe, on va dire. Mais peut-être pas tout abandonner.
Au musée de la photographie à Charleroi jusqu'au 20 janvier.
Effectivement, découvrir d'autres choses.
Pierre Libart, Boîte Noire, libre maintenant.
C'est donc un film, un court-métrage, qui assemble des photographies, de la vidéo, des paroles, du souffle. Il s'agit d'hommes que j'ai rencontrés suite à une annonce que j'avais diffusée sur Internet. Des hommes qui souhaitaient poser dans l'intimité d'une chambre close, pendant un temps délimité, qui est le temps de location de la chambre, qui est à peu près 2 heures. Ces hommes se dévoilent, se dénudent face à un photographe pour qu'il les contemple, pour qu'il les regarde, qu'il les photographie, qu'il tourne autour d'eux. Donc c'est un film qui montre une sorte de... presque de rituel expiatoire où ces hommes sont dans une soumission désirée.
Qui ont plus de sens que d'avoir un frigo. Je fais un peu de désordre.
Et le photographe, c'est vous ?
Le photographe, c'est moi, oui. Oui, c'est étrange en fait, de parler de soi à la troisième personne. Il y a un moment où je pense qu'on se dissocie tellement de ce qu'on a produit en fait, que ça paraît irréel, presque fictionnel.
Et ce film qui est montré ici au musée de la photographie à Charleroi dans la box, comment avez-vous fait pour le monter ? Quelle est la ligne directrice ?
Eh bien, il y a un moment où la photographie ne suffit plus, où la photographie ne dit pas tout. Et c'est vrai que le son, la musicalité, le rythme que l'on peut donner à un montage, le souffle, j'en parlais, c'est-à-dire la manière dont un torse gonfle et se dégonfle, enfin il y a quelque chose là auquel j'étais très attaché, c'était pour redonner vie en fait à ces personnes que je photographie qui ressemblaient vraiment à des gisants, à ce genre de cadavres que l'on retrouve dans les églises sculptées sur de la pierre. Et là par exemple on entend comme un cœur qui bat, et ça j'étais très attaché en fait à cette réanimation du corps par le cinéma, par la musique mais aussi par la bande sonore. Certains passages ont été strictement scénographiés avec des modèles qui, par ce qu'ils m'avaient dit ou par les corps qu'ils avaient, m'intéressait. Et donc, on a travaillé ensemble sur une reconstitution de ces moments que j'avais eus, ces moments intimes que j'avais eus avec eux, pour faire aussi générer la parole, ce qui n'est pas simple, en fait. Lorsqu'on a un masque sur le visage et qu'on a envie de garder un tant soit peu d'anonymat.
Des hommes, que des hommes.
Que des hommes, oui. C'est une annonce pourtant qui avait été jetée aux hommes, aux femmes, tout âge confondu. Et je n'ai eu des réponses que d'hommes, mais des centaines. Et au bout de 3 ans de recherche et de travail, j'ai pu photographier et organiser 100 de séances qui n'avaient attiré évidemment que des hommes. J'ai eu 2 réponses de femmes qui étaient des prostituées qui souhaitaient un book. Alors après 3 ans de fréquentation assidue des hôtels de passe à Bruxelles, j'ai su, oui, obtenir l'aval des patrons. Et les propriétaires des hôtels de passe me faisaient des prix puisque je n'utilisais pas les douches ni les essuies de bain et que les draps n'étaient pas souillés. Donc il y avait une sorte de compromis qui était fait avec les patrons. Mais oui, moi je devais m'occuper de payer les chambres. Parfois des modèles souhaitaient aussi contribuer à cette location.
Au musée de la photographie à Charleroi jusqu'au 20 janvier.
En moyenne, une location de chambre, c'est 30 euros pour 2 heures. Et puis je trouvais que parler de ces lieux aussi, qui sont des lieux où finalement c'est comme un corps. Il y a des corps qui sont parfois très chargés, des corps plutôt pauvres, plutôt maigres. Et en fonction des quartiers aussi, les hôtels de passe se concentrent autour de Isère à Bruxelles, donc dans le quartier vraiment strictement lié à la prostitution. Et il y a aussi des hôtels de passe du côté du Parlement européen, donc qui est vraiment cette zone eurocrate d'expatriés. Enfin, c'est très étonnant. Et puis il y a des lieux aussi hors de Bruxelles. Je suis même venu jusque Charleroi pour une séance. Et ces lieux parlent d'une mise en scène du désir. Et c'est quelque chose que j'avais envie de mettre aussi en exergue. C'est parfois des lieux très secs, avec des lits métalliques. Et puis il y a des lieux très chargés, avec des draperies, avec des sortes de personnes tenant des torches comme ça, des miroirs. Enfin, c'est très théâtral. Et ça, j'avais vraiment envie de mettre en exergue le théâtre du corps et le théâtre de la rencontre.
Pierre Libart, Boîte Noire, libre maintenant.
Manfred Jad, né en Allemagne, mais qui a étudié en Belgique. Et ce sont des portraits.
Manfred Jad, face to face.
Alors, portrait, échelle 1-1. Taille humaine, taille de la tête. Il ne s'agit que de visages d'hommes et de femmes qu'il a pris un peu partout durant 20 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que la pièce est blanche, les cadres sont blancs, les photographies sont noires et blancs, et tous, quasiment tous, en tout cas à part certains, ont été photographiés sur un même fond blanc ou un fond gris.
30 photos qui donneraient l'impression d'être une installation, comme on dit dans l'art contemporain, et ce n'est qu'une impression, parce que c'est une série de 30 photos. Il s'agit vraiment de voir les gens indépendamment et pas dans un coup d'œil. L'installation sous-entendrait comme ça une prise de possession de l'espace, ce que c'est toujours une exposition. Mais ici, il s'agit vraiment de regards individuels. Et je disais à Manfred hier ou avant-hier, tandis qu'on éclairait, que ce qui est assez étonnant, c'est qu'au fond, si on réduisait ces photos, on pourrait s'en servir pour une carte d'identité.
Ce qui est très intéressant, c'est que dans son accrochage, il mélange les hommes et les femmes, et les types de visages différents. Parce qu'en fait, il me semble correct de dire que dans cet accrochage-là, il ne fait pas une typologie. Il est en dehors de la typologie. Il est vraiment dans la différence. Au final, il y a de la ressemblance. Et si on devait additionner tous ces visages les uns sur les autres, ils n'en formeraient qu'un. Identique, quelle que soit la couleur de peau, quel que soit le continent duquel on provient. C'est une relation qui est une relation de face à face. Et c'est pour ça qu'il a appelé cette exposition « Face to face ».
Elles ont exactement le format de carte d'identité. Et qu'au fond, c'est la photo que nous possédons tous, qui est la plus banale, qui est obligatoire. Et nous ne la regardons pas. Nous ne regardons pas notre photo d'identité.
Face à face.
America Parasmart, oui. Il n'est pas héritier de la démarche d'un Auguste Sander.
Il l'est, mais en même temps, il ne l'est pas. Il est portraitiste, sûr. Il est dans le portrait. Là où Auguste Sander tentait de classifier les gens selon 7 grandes familles, puisque c'était à la mode aussi à l'époque, 1910 jusqu'à 1930-40, Juste avant, on a Bertillon et ses photographies d'identité pour classer les criminels. Et juste avant, on a aussi le livre de Lombroso qui, à partir des photographies de criminels, avait fait toute une série de classements selon la physionomie pour savoir qui était violeur, qui était voleur. Voilà. Et tout ça avait un lien social. Donc on est dans cette idée-là de classement, de physionomie. Ici, c'est pas ça.
Il n'est pas non plus héritier ou partie prenante de cette photographie allemande.
Oui, exactement, de Thomas Ruff. Ce qui est intéressant, c'est que oui, ça ressemble à, je suis d'accord. Mais là où Thomas Ruff vous fait des portraits aussi type carte d'identité, mais sur des formats de 2 mètres sur 3, et en couleur, et parfois en superposant deux portraits l'un sur l'autre, ici, on n'est pas là-dedans du tout. On a, oui, un portrait d'identité, mais on est dans une photographie qui est plus conceptuelle. On va au-delà de l'image. L'image est très simple. Le dispositif est terriblement simple et il est éculé. C'est pas le premier à faire ça. Mais ce qui l'intéresse, c'est ce face-à-face et la réaction du spectateur face à ce visage qui est complètement neutre. Il prend comme référence également le philosophe Lévinas et ses théories sur le visage.
En ayant adopté ce dispositif, ce même format, cette même hauteur, cette même qualité d'éclairage, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'interrogation du visage de l'autre. Et au fond, je me suis dit, en accrochant l'exposition avec mes collègues, il y a à chaque fois des vies, il y a à chaque fois des aspirations, et c'est la première chose que nous voyons sur le visage de quelqu'un quand on le rencontre pour la première fois. Il y a quelque chose, au fond, qui est de l'ordre de la découverte d'un pays. Nous cherchons à comprendre très très rapidement devant qui nous sommes. Il n'y a rien de plus trompeur qu'un visage, même si certains signes peuvent révéler des traits de caractère, mais il y a cette espèce de façade. Et ça m'a rappelé cette phrase, on a mis une citation d'Emmanuel Lévinas en exergue de la présentation de l'exposition à l'extérieur, et ça m'a rappelé cette phrase de Paul Valéry qui est très belle, qui dit que la peau est ce qu'il y a de plus profond chez l'homme. C'est-à-dire que cette apparence est au fond quelque chose qui est beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel que chaque visage ou que chaque masque que nous espérons porter.
Ici, on est face à un visage qui ne vous répond pas. Donc tout devient possible. Si on regarde le visage, parce que si on commence à regarder les yeux, le nez, les oreilles, là on perd l'ensemble. Et là, le tout est possible et perdu. Tout est possible que lorsqu'on regarde le visage dans son ensemble. Lorsque notre regard est happé par autre chose, alors on perd ce contact. On est vraiment dans un autre univers. On est dans un tu et dans un je, mais le tu ne répond pas. Le tu est absent. Le tu devient source de tous les possibles. Comme c'est un visage qui ne vous répond pas et qui est d'une neutralité mais quand même invraisemblable, se pose toute une série de questions. Tout est possible, ça veut dire, puisque ce visage ne me répond pas, je peux lui faire du mal, comme je pourrais lui faire du bien. C'est là le tout est possible. Et c'est là que ça devient intéressant. Au-delà de Lévinas, au-delà du portrait, au-delà de cette neutralité, tout cet aspect philosophique et conceptuel, on est face à des visages où rien n'est dit. Et en photographie, si on ramène ça au support photographique, c'est cette question de se dire, le portrait, qu'est-ce qui vous amène? Il ne vous amène que des traits. On aurait deux photographies d'une même personne, des jumeaux par exemple, qu'est-ce qui différencie l'un de l'autre? En photographie, peut-être rien, peut-être un détail. Et c'est ça qui est intéressant. Je trouve que le portrait, il questionne ça. Le portrait, c'est en final le réceptacle de ce que le visiteur ou le spectateur va y projeter, en photographie en tout cas. Et c'est ça qui devient intéressant. C'est que ici, ces visages ne vous disent rien, vous ne savez rien, mais en même temps, on peut s'imaginer des tas de choses. Ce qui est aussi très intéressant, c'est l'âge de ces gens. Ils sont entre 15 et 25 ans. Il n'y a pas, c'est pas toutes les catégories, c'est une catégorie bien précise. Et ce que je trouve intéressant, de manière photographique, c'est que ces catégories bien précises, les 15-25 ans, ce ne sont plus des enfants, ce ne sont pas encore des adultes. Et on est vraiment dans l'entre-deux. On est dans une période où on se cherche, où on ne sait pas encore forcément trouver en tant que personne, on ne sait pas encore affirmer en tant qu'adulte, mais en même temps, c'est une période où le corps change. C'est des traits qui sont à la fois enfantins, mais qui commencent à se durcir. Et c'est aussi une période où on n'a pas encore vécu toutes les vicissitudes de la vie, on ne s'est peut-être pas encore fait plaquer de manière assez rude, on ne s'est peut-être pas encore assez confronté à cette dureté de la vie.
Oui, et donc, il y a aussi, et aussi au niveau sexuel, il y a de l'indéterminisme. Vous venez voir cette photo. Est-ce un homme, une femme ? On ne sait pas.
On ne sait pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas encore fini, au final. On est encore dans l'indéfini. Tout est encore possible. Tout est encore. Les dés ne sont pas jetés pour toujours. Il y a quelque chose après. Il y a quelque chose à faire. Tout est encore possible. Il peut encore devenir ingénieur. Il peut encore devenir médecin. Il peut encore devenir électromécanicien.
Oui.
Tout est possible.
Ou devenir une femme.
Ou devenir une femme s'il le désire. Tout est possible. Donc il y a, oui, cet aspect qui est entièrement conceptuel, qui fait la part belle à la philosophie de Lévinas, mais il y a tout cet aspect aussi où on questionne l'autre, la diversité. On a 4 femmes asiatiques. Difficile de dire qui est coréenne, qui est chinoise, qui est vietnamienne ou qui est japonaise. Dans cette recherche absolue qu'on a de la différence, on ne se rend pas forcément compte qu'on est tous semblables. Et je pense que cette exposition a cette force-là, c'est qu'au final, à force de les voir, de les regarder, de les re-regarder, il n'y a plus de différence. Il n'y a plus du tout de différence. Pour moi, elle est gommée, elle est complètement gommée.
On a affaire à l'humanité.
On a affaire à l'humanité, oui. Oui. Et plus dans sa diversité, dans sa ressemblance. Là où on a voulu cataloguer, là où on a voulu classer, on est vraiment dans le déclassement le plus complet. Ce classement, d'ailleurs, n'a aucun sens. Une fois qu'on a regardé toutes ces photographies, classer les gens, même par continent, n'a plus aucun sens. Parce qu'en face de nous, on a des personnes qui ont des traits africains, mais c'est des cubaines. Donc, ce mélange mondial fait que cette idée de classement est complètement absurde. Absurde. Donc, oui, c'est un propos philosophique et conceptuel, mais en même temps, c'est une photographie qui, au-delà de cet aspect conceptuel, nous touche par sa simplicité et aussi par ce qu'elle nous montre, de manière très très simple.
Me, My Mom, qui est une exposition d'un duo de photographes. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il y a des duos de photographes, mais je pense que c'est en tout cas la première fois qu'on présente un duo, qui est un duo mère et fille, Marie-Hélène Coulens et Lisa Debock.
Voilà. Alors, on est ici dans l'exposition de Lisa Debock, une exposition qui s'appelle Me, My Mom, ou Me, My Mom, qui est une exposition qui nous montre à la fois des images prises par la mère de Lisa Debock, mais également des images prises par Lisa Debock elle-même. Alors on débute l'exposition par une photographie de Lisa de Bock, enfant, cachée derrière un rideau rouge, habillée d'une robe rouge. On n'est pas dans une exposition d'une personne, mais de deux. Mais ces deux personnes n'en font qu'une. Il y a comme un espèce de lien fusionnel entre la mère et la fille. La mère commence la photographie, et puis c'est la fille qui la poursuit. Mais en mettant en scène la mère, pour finir, la fille se met en scène seule. Mais la mère n'est jamais loin. C'est assez extraordinaire. C'est un beau binôme qui fonctionne bien. Et qui... C'est une exposition en trois temps. On a d'abord le premier temps où on découvre les photographies de Lisa de Bock, enfant mise en scène par sa mère. Puis on a une période où c'est Lisa de Bock qui met en scène sa mère. Et on termine par une Lisa de Bock seule, mais qui fait dans ses photographies parfois référence également à la mère.
Vont vous expliquer ce que veut dire ce Me, My, Mom, quel est le principe fondateur de ce travail commun qui remonte maintenant à 30 ans. Simplement vous dire que...
Cette relation fusionnelle se ressent dans les images parce qu'il y a vraiment une complicité. En même temps, lorsqu'on dit c'est une mère qui photographie son enfant, on pense directement aux photographies des années 70 et 80 de Ionescu qui mettait en scène sa fille dans des positions parfois très érotiques. Ici, ce n'est pas vraiment le cas.
Il y a presque un basculement, sans que pour autant elle évacue le travail de Marilyn. Le travail est toujours fait en commun, mais on a presque le sentiment à un moment que c'est Lisa qui prend l'initiative de la création photographique, du scénario, en faisant également à plusieurs reprises intervenir sa mère.
On joue également avec le papier peint, avec les vêtements. C'est vraiment des mises en scène assez poussées quand même, mais qui sont très parlantes, parce qu'il y a une photographie qui, moi, me touche. Il y en a plusieurs qui me touchent énormément. Mais il y en a une qui me touche particulièrement. C'est une photographie qui s'appelle « Suis une vieille dame maintenant ?» Une photographie faite en 1996 où on voit Lisa de Bock enfant, torse nu mais se tenant la poitrine, maquillée comme une femme adulte mais avec une perruque de cheveux gris, donc ancienne femme. Et je trouve cette photographie très forte parce qu'on a les trois états par lesquels passe un être humain mais surtout une femme. Et je me suis posé la question de savoir si, au final, on n'interrogeait pas qu'est-ce que la féminité, qu'est-ce qu'être une femme aujourd'hui. Alors on passe par les clichés, talons hauts, robe de soirée, des beaux atours, le maquillage. Mais ensuite, on part vers des messages qui sont beaucoup plus forts, on part vers de la solitude. Elles sont toujours seules, elles ne sont jamais accompagnées ni par un animal, ni par un être humain, ni par un homme, il n'y a rien, il y a peut-être un chat. Mais c'est tout, donc c'est des images au final où c'est des femmes qui se mettent en scène elles-mêmes dans tout ce qui peut être une représentation idéalisée de la femme, mais en même temps peut-être en se cherchant, parce que c'est ça qui est très fort dans ce travail-ci, c'est les portes ouvertes. Il n'y a pas une interprétation, il y en a plusieurs. Pourquoi est-ce que Lisa de Bock met-elle en scène sa mère? Est-ce que c'est pour se confronter peut-être à la perte qui va arriver? Est-ce que c'est pour mettre en image ses propres angoisses? Est-ce que la mère de Lisa de Bock mettait ses propres angoisses en image? On ne le sait pas, tout est ouvert.
Alors on parlait tout à l'heure d'ambiance parodie. C'est plus seulement des citations qui sont des citations de films ou de feuilletons. Et par exemple, cette image, moi, que j'aime énormément, qui est une image qui, évidemment, m'évoque les tableaux d'Edward Hopper. Cette solitude, une photographie composée dans d'autres décors. Ça vient souvent chez vous aussi de la recherche d'un lieu. Je sais que vous aimez chercher des lieux, et puis à partir de ce lieu, qu'est-ce qu'on inscrit comme, comme histoire ? Et là, c'est vraiment une citation qui est quelque chose... je ne sais pas si ça avait été voulu, mais en tout cas, moi, c'est ce que ça m'inspire, c'est cette solitude des personnages dans un univers un peu organisé, aseptisé, dans les tableaux d'Edward Hopper.
On a vraiment une lecture très, très ouverte. Et tout n'est que mise en scène. Donc, on peut se dire aussi, est-ce que la mère est le miroir de Lisa de Bock ? Est-ce que Lisa de Bock est le miroir, est-elle le miroir de sa fille ? On ne sait pas. On est dans, à chaque fois. Et il y a toujours un côté très cinématographique aussi. Les images se lisent seules, pas forcément accompagnées. Il ne faut pas chercher des liens, il ne faut pas chercher des séries, il ne faut pas chercher une narration. Les images sont belles, elles peuvent se lire seules, c'est un moment. On est devant « I eat alone »,« Je mange seul », 2013, Lisa de Bock, face à une fenêtre, habillée simplement d'un t-shirt rouge, pas de bas, donc elle a les jambes nues. Elle est assise sur l'accoudoir d'un fauteuil. Elle ne regarde pas à travers la fenêtre qui est en face d'elle, elle regarde un point dans la pièce, qui est certainement dans l'obscurité, éclairée simplement par la fenêtre. Photographie très cinématographique, mais également très picturale, Denis Hopper n'est pas très loin, mais en même temps, les deux photographies qui sont juste à côté n'ont pas forcément de lien avec celle-là. Donc il y a une narration qui est complètement ouverte.
Ce dernier chapitre, il s'appelle « Somewhere Under the Rainbow », allusion, mais... légèrement modifié à la chanson de Judy Garland, cette fameuse chanson de la comédie musicale. Ce sont des images qui, pour la plupart, sont des images qui ont été présentées ici pour la première fois, je crois. Beaucoup d'images sont montrées ici pour la première fois et avant sur ce chapitre, avec celle-ci qui me paraît très intéressante et qui aurait presque pu résumer l'exposition. Hein, c'est ce médaillon que porte le modèle, c'est-à-dire Lisa. Mais ce médaillon les montrant tous les deux dans une espèce d'interrogation, l'une posant la main sur la tête de la mère et l'autre étant la mère qui tient le cou de la fille. Hein, ou des questionnements aussi. C'est, moi, une des premières questions que je leur ai posées, j'imagine que vous avez envie de leur poser, c'est qu'est-ce qui viendra après ? Est-ce que la relation continue, photographie, ou est-ce qu'elle prend d'autres formes ? Ça, ce sera à elle d'y répondre, mais on a presque le sentiment là, même à la fois d'une grande complicité, mais de quelque chose qui, comme toutes les complicités, lie et peut-être parfois, j'ai bien dit peut-être, enferme.
Elle n'explore pas un fil conducteur, elle en explore plusieurs. Elle n'explore pas une grille de lecture, elle en a des tonnes. Et selon, au final, ses propres références, on va y voir du cinéma ou pas, on va y voir Catherine Deneuve ou pas. La deuxième photographie que je trouve extrêmement forte dans cette exposition, c'est celle qui s'appelle « Unlocking the Locket », en regardant à travers la serrure. Et qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit une femme qui cache ses seins, mais qui porte un pendentif. Ce pendentif est ouvert, et on y voit deux photographies, Lisa de Bock et sa mère. Sa mère, avec une main qui vient lui caresser la tête, sa fille, avec deux mains qui viennent l'étrangler. Tout est dit. Je trouve cette photographie très très belle, et je pense qu'on est là-dedans. Un rapport haine, amour, disparition, apparition, mais également pleine d'angoisse, tout se joue, c'est un lien fusionnel, je ne sais pas ce qui pourrait arriver par la suite. Ce que j'aime bien aussi chez Lisa de Bock, c'est sa dernière série, qui est une série qui est beaucoup plus cinématographique et qui va certainement amener la photographe vers autre chose. J'attends avec impatience de voir son travail dans les 10 prochaines années pour savoir si elle a trouvé ce qu'était une femme ou si elle le cherche toujours, et puis surtout pour voir ses prochaines propositions. En tout cas, ici, voilà, on a vraiment différentes propositions. On est vraiment dans le portrait mis en scène, portrait de femme, d'une femme, de deux femmes, d'une multitude de femmes, de multitude de situations, avec plein de références au cinéma, à la littérature, à la photographie ou à la peinture. Voilà, c'est vraiment une exposition ouverte et anti-narrative, dans le sens où la narration, c'est le spectateur qui la porte et pas Lisa.
Au musée de la photographie à Charleroi jusqu'au 20 janvier. Robert Frank, Les Américains, Pierre Libart, Boîte Noire Libre Maintenant, Manfred Jade, Face to Face, Lisa Debouc et Marlène Collins, Mémimum. Avec Xavier Cannon, America Parasmart, Georges Vercheval et Pierre Libart. Le Monde Invisible est une émission de Thierry Genico. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.